Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour les amis, au frais, à l'ombre, en voiture, où que vous soyez, soyez les bienvenus. Les produits de l'été, des reportages inédits chez les artisans du goût, des recettes de chef, les meilleurs moments de nos débats et nos invités. Voilà le menu de ce samedi midi. Éco-responsable à l'affût des dernières idées, elle nous aide à comprendre ce que nous mangeons. C'est Anne-Laure Femme. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour chers amis.
Il a plus d'un tour dans sa glacière pour nous faire vivre un été aux petits oignons. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Prêt pour le pique-nique Laurent. Bonjour à tous.
Incollable sur le vin, il a réponse à tout ce qui se boit avec modération et sans glaçons, surtout quand il s'agit du rosé. C'est Olivier Pouls.
Oui, mais à bonne température quand même, mon
Exactement.
Cher Laurent. Bonjour.
Des femmes chefs aux critiques gastronomiques, nous retrouverons les moments forts de nos débats. D'Alain Ducasse à Dève, les invités se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors nous écouterons les bonnes paroles du chef étoilé et du chanteur populaire. Et puis Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse, deux journalistes concurrents mais amateurs de bonne chère, seront aussi de la partie. Voilà, vous savez tout, sans oublier la recette de chef simple et familiale. Aujourd'hui, une moussaka signée Michaela Liaroutsos. À table les amis. Notre petit rituel, vous qui nous écoutez peut-être sur la route des vacances ou à la maison, amusez-vous avec nous à répondre à cette question. Quel est votre goût de la semaine? On va commencer, on va être galants les gars.
Ah, bien sûr.
Comme
ah,
toujours.
Oui.
Surtout qu'on va parler des femmes chefs dans un instant. Donc nous avons
vous êtes très bons élèves aujourd'hui.
Une grande chef chroniqueuse avec nous, c'est Anne-Laure Femme. Votre goût de la semaine, Anne-Laure?
Et moi, c'est le goût d'un petit bijou venu de Serbie. Un ajvar, je soigne ma prononciation parce que ça s'écrit A-J-V-A-R et c'est un confit de poivrons.
Ah oui.
Les poivrons en Serbie sont énormes et très sucrés. Ils sont mijotés très longuement avec juste du vinaigre, du sel et basta. C'est présenté en pot. C'est une marque qui s'appelle Granny Secret, une marque serbe. Ça a le prix d'une confiserie assez luxe, c'est 5,60 le pot. Mais je vous assure, quand vous plongez votre tartine dedans, il y a un goût que je trouve unique et
avec
que je n'ai jamais
trouvé.
Viande
froide, par exemple
ou... Viande froide, pâtes, on a fait aussi des tartines avec tout simplement, sur d'une focaccia. Non mais ça va avec tout, c'est génial. Si vous voyez ce produit, l'ajvar de Granny Secret, foncez, n'hésitez pas.
C'est noté. Olivier Pouls, votre goût de la semaine?
Beaucoup plus simple, moi je vais directement dans le jardin, je vais picorer des framboises. On parle souvent en été de la fraise, c'est vrai que c'est un fruit absolument délicieux, on aime tous les fraises, mais moi je préfère la framboise, figurez-vous. Ce petit côté acidulé, c'est un goût d'enfance, j'ai toujours adoré les framboises. Et chez mes parents, j'avais de la chance, il y avait des framboisiers, et ça c'est très facile, si on a un jardin, on peut planter des framboisiers, ça pousse comme de la mauvaise herbe.
Il y a des remontantes aussi à l'automne.
Et alors le bonheur d'aller en ce moment, alors qu'on est en pleine saison, picorer ces petites framboises et les manger, sentir le jus là qui éclate dans la bouche, j'adore ça.
Tous à la framboise. Yves Candebord, votre goût de la semaine, camarade.
Moi, je vais vous parler d'un petit village qui s'appelle Morlane, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. Un village où d'ailleurs il y a un magnifique château et des très belles maisons béarnaises. Et dans ce village, il y a une auberge. Vous savez, Laurent, les auberges comme on les aime, les auberges de province.
Bah oui.
Ça s'appelle Loucapetout. C'est du Béarnais, David Ducassou, qui fait une cuisine.
Ah, mais j'y suis allé, c'est magnifique.
C'est magnifique.
Un village sublime.
Sublime, qui fait une cuisine vraiment authentique, une cuisine d'auteur avec des produits régionaux.
Ah oui.
Et il n'a pas attendu qu'on lui dise qu'il faut de faire du loucavore. Il en fait depuis des années et des années.
Et comment?
C'est vraiment un moment de bonheur où on se retrouve vraiment dans la France qu'on aime.
Oui, David Ducassou. Et ça ne veut pas dire petit Ducasse. Hein,
c'est... Non, non. C'est... Au contraire, Laurent, c'est grand Ducasse.
C'est grand, ben, oui, voilà, c'est un grand Ducasse. Mais on parlera d'Alain Ducasse aussi tout à l'heure. Mon goût de la semaine, moi, c'est la tomate miel du Mexique. C'est Pascal Selem qui m'a fait découvrir ça. Vous connaissez Pascal Selem, qui a fait de nombreuses caméras cachées pour la télévision, qui est comédien et qui est sur les routes en tournée pour des pièces de théâtre. Eh bien, il a ouvert une ferme en permaculture sur les Côtes d'Armor.
Ah,
et
oui.
Il fait pousser une tomate miel du Mexique, qui est une tomate cerise. Vous croquez dedans, c'est sucré, c'est fondant, il y a un goût de miel, c'est magnifique. Il m'a fait découvrir ça cette semaine. Voilà, vous savez tout les amis. Allez, tous les samedis de l'été, on vous rend visite sur les marchés. Alors aujourd'hui, on vous a posé une question de saison. En été, au marché, vous vous lâchez ou vous faites attention au porte-monnaie? Vos réponses dans le midi et à Paris.
J'aime bien regarder les beaux fruits, mais les beaux légumes, mais le prix, à l'été, ça explose.
Je fais quand même attention au prix, parce que parfois, c'est vrai que dans certains marchés, les prix sont parfois un petit peu explosifs. Mais par contre, on aime bien se faire plaisir et profiter de chaque terroir de la France. Et généralement, oui, on se fait quand même pas mal plaisir à ce niveau-là.
Là, je trouve que le marché d'Antibes, les fruits, par exemple, qui arrivent du Gard, ils sont durs, ils sont très chers.
Un kilo de tomates de Marmande à 10 euros, c'est pas normal, quoi.
On espère que ce ne soit pas trop touristique. Je préférerais qu'il y ait vraiment des producteurs locaux. Il y en a quelques-uns au centre qui vendent des fleurs et des légumes.
En fait, c'est intéressant le prix, pas seulement pour des questions économiques, mais dès l'instant où il y a un intermédiaire, le prix est plus élevé. Donc quand on voyage, quand on va en Corse par exemple ou dans le sud de la France, c'est la possibilité de pouvoir acheter directement aussi à des producteurs. Donc il faut repérer sur le marché, c'est tout de suite les prix sont beaucoup moins chers.
Absolument, le local, ça fait du bien, ça fait pas mal. Olivier Pouls.
Alors je suis effaré d'entendre effectivement des prix comme 10 euros le kilo de tomate, c'est délirant.
En pleine saison,
en pleine saison, c'est vrai qu'il y en a qui poussent le bouchon un peu loin, surtout dans les zones touristiques. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire le tour du marché avant de commencer à acheter. C'est pas commencer à acheter dès qu'on arrive au marché, parce que le même fruit ou le même légume, vous allez le trouver, moi je l'ai constaté, entre 3 et 9 euros parfois, il y a 3 fois le prix. Donc il faut vraiment choisir où on les achète.
Repérage sur le marché avant d'acheter, vous êtes d'accord Yves Candebord?
Oui, totalement. Et la petite astuce, Laurent, c'est les cagettes en plastique. Vous savez, les cagettes qui sont réutilisées, ça veut dire que c'est un producteur qui réutilise ses cagettes.
C'est pas un grossiste.
C'est pas un grossiste.
Et dernière astuce, aller à la fin du marché, parfois les prix sont bradés.
Alors en plus, doux, moelleux et parfumé, l'abricot est notre produit coup de cœur aujourd'hui. De la récolte aux recettes, vous saurez tout sur l'abricot les amis. À tout de suite et bon samedi.
11h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Nous sommes fin juillet, on arrive bientôt à la fin de la saison de l'abricot. C'est vrai que ça passe vite, il est assez fugace hein, l'abricot. Moelleux et juteux, c'est un cul d'ange à la renverse, comme dirait le poète Francis Ponge.
C'est osé.
J'aime bien moi ça, oui mais c'est joli.
C'est très joli. Hein,
c'est très joli.
C'est très imagé mais c'est très joli.
Et à chaque région, sa variété on pourrait dire, Anne-Laure Femme.
Allez, on va faire un petit tour de trois régions, les trois régions principales productrices de l'abricot. Vous avez le Languedoc-Roussillon, avec notamment le Lambertin, qui a une jolie couleur orange foncé. Vous avez aussi, en Drôme et Vaucluse, l'Oranger de Provence, qui est bien gros, qui a un joli panaché de rouge. Et vous avez aussi, dans la vallée du Rhône, le Bergeron.
Alors ça,
j'avoue que c'est l'un de mes préférés. Orange sur une face et rouge sur l'autre. Et il a une chair bien ferme et bien juteuse.
Alors, ce qu'il faut préciser, les amis, c'est que la couleur n'est pas un gage et un signe de maturité. Attention, c'est pas parce qu'il est rouge avec des petites taches de rousseur et vermillon qu'il est mûr. Hein. C'est la variété, mais c'est pas la maturité.
Il faut le toucher, le caresser très délicatement pour qu'il soit un petit peu souple, en fait, sous le doigt.
C'est ce qu'on va entendre avec Marion Sauveur tout à l'heure dans un verger d'abricots. La France se maintient bien en production d'abricots, Yves Candebord.
Laurent, c'est la France qui détient la plus grosse production européenne d'abricots.
Cocorico.
À la consommation. Alors moi, je vais en profiter quand même pour saluer nos amis de la Drôme, parce que tous les agriculteurs de la Drôme qui ont problème
avec les intempéries,
c'était très difficile pour eux. Je les salue parce que grâce à eux, on a encore des abricots de qualité en permanence.
Absolument. Donc si on en trouve et si vous avez la chance d'en trouver dans le coin, tous aux abricots de la Drôme. Alors il ne vient pas de la Drôme au départ, Olivier Pouls.
C'est autour de l'Iran et de l'Arménie qu'ont commencé à pousser les premiers abricotiers. C'était il y a longtemps, on est à un siècle avant Jésus-Christ. Et puis évidemment, comme beaucoup de ces fruits et légumes, ils ont colonisé l'Europe et ils sont arrivés chez nous dans le sud, évidemment dans la Drôme par la suite.
Alors le plus compliqué avec l'abricot, c'est de choisir les bons sur les marchés, bien mûrs. Marion Sauveur est allée à la cueillette avec Benjamin Trucot, il est producteur à Solliès-Toucas dans le Var. Rien que le nom, sans le soleil, tendez l'oreille, on est au milieu du verger d'abricots et on va savoir comment bien les récolter.
Là on est sur un verger qui a été planté il y a 5 ans. On a pas mal de chance, c'est qu'on a un terroir exceptionnel en Méditerranée et dans ce verger-là, où on arrive à avoir des fruits en général qui sont très goûteux. Il suffit des fois de se déplacer de 20 km, un petit peu comme le bon vin, et on arrive à avoir des fruits qui sont plus pareils et qui peuvent vraiment décevoir. Pour choisir un bon abricot sur le marché, l'idéal c'est de le goûter à l'achat ou de l'avoir goûté une semaine précédente. C'est comme ça qu'on voit qu'une variété nous plaît et le terroir joue beaucoup. Ce qu'il faut, c'est essayer de les trouver sains, de ne pas appuyer fort dessus. Si on le tâte et si tout le monde tâte les abricots au bout d'un moment, ils sont mous. Et de toute façon, un abricot, même acheté dur, si la variété est faite pour ça, en vieillissant, en attendant un ou deux jours à la maison, il va se ramollir et il va devenir très très bon. Vous voulez goûter?
Allez, je goûte.
Alors, le tout, c'est de l'étater, ni trop fort, ni pas assez, pour savoir celui qui est mou à point. Voilà, ça se tourne.
Avec ce petit goût sucré, là, acidulé, c'est délicieux.
C'est parfait, hein. C'est juteux. Ouais. Ah ouais, on se régale.
Ah oui, on se régale. On les a à cette table parce que Marion Sauveur, il a eu gentillesse et la bonne idée de nous en rapporter.
Merci Marion.
Bons, voilà, ils sont mûrs comme on aime, ils sont mous. Alors moi, je découvre quelque chose. Je croyais que les fruits à noyaux ne mûrissaient plus après la cueillette. Ça veut dire qu'il faut quand même les cueillir pratiquement mûrs quand il nous explique, Benjamin, qu'on peut les faire mûrir encore après.
Mais oui, bon. Voilà, on peut les conserver encore 2-3 jours de plus. C'est vrai que ça va, la maturité va continuer.
Voilà, mais il ne faut pas les cueillir trop ferme non plus.
Ce sont des fruits climactériques.
Voilà. Vous-même
Les fruits climactériques sont les fruits qui continuent leur mûrissement après avoir été récoltés.
Oui, mais à condition qu'ils ne soient pas trop cueillis fermes quand même.
Non, hein. Non, si vous voulez, s'ils ne sont pas mûrs, pour les garder 4-5 jours, ça ne changera pas grand-chose.
Exactement, voilà, c'est
alors, ça. L'idéal, c'est quand même les prendre mûrs, mais c'est vrai que pour les pousser à une maturité, surtout par rapport à la recette qu'on a envie de faire, selon la recette que vous choisissez, voilà, on peut les avoir un peu plus, je dirais, mûrs ou un peu plus croquants.
Quelques idées, tiens, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de cuisiner l'abricot, Anne, leur femme.
Alors moi, je reviens au barbecue, je vais le couper en deux, le faire rôtir, juste de quoi imprimer la trace de la grille, hein, pas plus, parce que sinon ça va se déliter. Et puis je le mélange à une salade, par exemple, de roquettes ou un petit peu relevé, vous voyez, avec des herbes un petit peu épicées.
Juste rôti rapide, quoi.
Ah oui, rapide, ouais, c'est bien. Et quelques pistaches, et une bonne vinaigrette, et vous avez une entrée spectaculaire à moindre frais.
Au barbecue aussi, on peut en faire des brochettes avec du magret de canard.
Et oui.
Des cubes de magret de canard et puis des petits oreillons, la moitié de l'abricot comme ça en brochette, c'est parfait.
Avec
ça.
Le poulet aussi, ça va extrêmement bien. Pareil, en fondu comme ça dans la cocotte, ça se dissout et ça fait une sauce géniale.
Yves Candebord, vous allez voir, il va nous sortir un truc incroyable.
Non, mais moi je vais faire une papillote, j'adore ça.
Ouais.
Trois éléments, c'est abricot, romarin, amande. Une papillote, papier sulfurisé, les abricots dessus, une petite cuillère à café d'un joli miel, on met une belle brindille de romarin dedans, on referme la papillote, on la passe au four 7 à 8 minutes. Quand on la sort, on dépose dessus une glace au lait d'amande. C'est tout simple.
J'achète.
Top.
Mais c'est bon.
C'est bon ça. Olivier Pouls ?
Alors moi, j'ai avec l'abricot, comme avec beaucoup de fruits à noyaux, j'ai un problème d'allergie et je ne peux pas les manger crus. Donc je suis obligé de les cuire et j'en fais des compotes. Et je trouve qu'une compote d'abricot, c'est délicieux.
Avec une faisselle ou un fromage blanc,
exactement,
c'est magnifique.
Exactement. Ah, c'est très simple, mais c'est une manière pour moi de pouvoir les manger.
Petit clin d'œil, tiens, Jacques Maximin, un de nos plus grands chefs, qui m'a appris à faire l'abricot comme un œuf sur le plat, dans des petits plats à œufs. Vous mettez une sorte de crème cuite avec du lait et de la fécule de maïs, ça prend, donc ça fige, et vous mettez un demi-oreillon juste rôti par-dessus. On dirait un œuf sur le plat, c'est-à-dire que le jaune orangé de l'abricot par-dessus le blanc de la crème cuite, ça fait un petit trompe-l'œil et c'est assez amusant. Et si on parlait des femmes chefs en cuisine ?
Oui !
Ah, elles sont de plus en plus nombreuses.
La foule est en délire, oui !
Et pourtant, on les entend moins. On va les entendre à la table des bons vivants. Bon été et bonnes vacances si vous y êtes.
11h30, Laurent Mariotte sur Europe 1.
À l'heure de la parité, les femmes chefs sortent du bois, mais elles restent sous-médiatisées. Alors leur parcours est souvent semé d'embûches pour arriver jusqu'au fourneau. L'occasion de rendre hommage aux femmes qui ont ouvert la voie en cuisine. Je vois Yves Candebord, c'est pas radiophonique, mais il grimace. Pourquoi vous grimacez ? Vous n'êtes pas d'accord ?
Mais non, c'est pas que je suis pas d'accord avec ça, mais moi je suis super content qu'il y ait des femmes chefs, qu'il y ait de plus en plus de filles en cuisine. Mais il faut remettre le contexte. Est-ce que dans les mines, il y avait des femmes ?
Oui, parce que vous voulez dire que c'est un métier très physique, qui fait très chaud.
Non, mais quand on prend ce métier il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, le charbon de bois, la chaleur, c'était compliqué comme métier. Et c'est vrai que peut-être que l'homme avait la force physique pour le faire.
Oui, mais une de nos plus grandes chefs était la mère Brasier qui a formé Paul Bocuse, quand même, que vous avez bien connu. Parlez-nous de votre idylle avec la mère Brasier.
pour rebondir sur ce que dit Yves, oui, un métier soit pénible, mais aussi du coup des femmes persuadées que ce métier était trop pénible pour elles. Donc en force physique,
c'est
très contestable ce que vous dites.
Non, pas à l'époque. Non, je ne suis pas d'accord sur l'époque.
Bah oui, mais justement, c'est aussi un état d'esprit, je pense.
Mais aujourd'hui, la technique a changé. La technique permet effectivement de permettre aux femmes d'être très présentes en cuisine.
Tous les métiers dits pénibles sont abordés aussi bien par les hommes que par les femmes.
Non, mais pourquoi c'est abordé par les hommes par les femmes ? Mais moi, je suis pour la femme en cuisine. Attention, je ne veux pas que vous trompiez.
On a lancé un débat.
Pourquoi c'est abordé ? Parce que c'est justement la technique et la façon de travailler et l'outil de travail qui s'est modernisé. Là, on travaille dans des conditions aujourd'hui.
Mais tant
mieux pour tout le monde.
Mais ça, je m'en réjouis.
Une femme chef qui vous a marqué, tiens, Anne-Laure Femme.
Alors moi, elle me marque parce qu'elle elle livre toujours des propos vraiment géniaux et coups de poing sur la situation des femmes, disant justement que les femmes n'en sont jamais assez médiatisées. C'est Dominique Crène, une Américaine qui est la première chef à avoir obtenu aux États-Unis 3 étoiles Michelin. Et je vous assure que, lisez son interview dans le New York Times, elle le dit bien, financièrement, c'est super dur quand une femme n'a pas l'aura médiatique que ses voisins, les hommes. Et ça, du coup, c'est compliqué pour elle.
Yves Candebord, il y a une femme chef.
Moi, j'ai excité une demoiselle qui travaille à Paris, Alexandra Montaigne, qui est brésilienne,
on l'a eu
qui est pétillante, qui est pleine de joie et qui fait une cuisine d'auteur.
Alessandra Montagne.
Au Tempero, voilà. Dans Paris 13e.
Ouais. Exactement. Et qui fait une cuisine qui est personnalisée, qui est une cuisine qui est marquée. Elle y met sa poigne dedans, elle y met son caractère.
Et de l'émotion.
Elle y met d'émotion et surtout elle y met de la joie parce qu'elle est tout le temps joyeuse.
Olivier Pouls.
Moi, j'aurais salué mon amie Stéphanie Lequelec, qui en ce moment même est en train de préparer l'ouverture de son nouveau restaurant La Seine version 2. Ce sera pour mi-octobre à Paris et j'ai hâte d'aller goûter sa cuisine que j'adore.
Alors, nous avons reçu cette année Vérane Frediani pour son livre de portraits de femmes chefs Elle Cuisine, paru chez Hachette. Elle a aussi réalisé un documentaire à la recherche des femmes chefs, l'occasion de faire une mise au point, justement, sur les femmes chefs en cuisine. Du film au livre, vous avez fait du chemin, vous les avez trouvées, ça y est, ces femmes chefs, elles existent. Il y en a beaucoup dans le monde entier, mais
j'étais
elles sont peut-être un peu plus discrètes. Vous étiez inquiète, hein ?
Oui, au départ, je suis partie en me demandant si j'aurais assez de rencontres pour faire un film entier sur les femmes chefs. Et puis finalement, j'ai été un peu débordée par mon sujet, parce qu'elles sont très nombreuses, y compris en France, où on en a quand même plus de 500.
Tout de même, mais c'est vrai qu'elles sont discrètes. À quoi c'est dû, ça, cette discrétion ?
Je pense qu'il y a encore quelques années, elles se sentaient pas légitimes. Quand je les ai rencontrées la première fois, il y avait vraiment ce problème-là. Aujourd'hui, elles sortent du bois. Je pense qu'on les a aussi sollicitées de plus en plus. Il y a un problème de médiatisation. Mais c'est à nous aussi d'en faire des stars, quelque part, contre leur gré. Elles se sentent pas forcément légitimes ou pas prêtes à devenir des stars de la gastronomie. Et en fait, c'est à nous de les entraîner un peu avec nous. C'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire.
C'est ce qu'on fait maintenant, justement, parce que votre livre, il est très beau. Quand on parle des femmes chefs, on pense souvent et tout de suite à Anne-Sophie Pic, mais qui a aussi travaillé avec une femme sommelière, par exemple.
Oui, là où je suis ravie, c'est qu'en fait, suite au documentaire, Paz Levinson, qui était la sommelière qu'on voyait dans mon film, a rencontré Anne-Sophie Pic. Et depuis, elles travaillent ensemble, en fait, dans la maison Pic. Et c'est une sommelière aujourd'hui en charge de toute la sommellerie de la maison Pic. Et pour moi, c'est une formidable modèle en fait d'entraide entre femmes et de travail en commun. On a ce problème, nous les femmes, quand même, de solidarité féminine. On a besoin de travailler là-dessus.
Vous parlez de duo de femmes, on va en profiter aussi pour saluer Amélie Darvas et Gabi Benicio qui ont reçu le prix de la meilleure table dans le guide Fooding pour leur restaurant éponyme à Vaillant dans l'Hérault.
C'est un bon exemple, encore une fois, d'une sommelière et d'une chef qui travaillent ensemble. C'est un modèle possible aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, une femme en sommellerie dans un restaurant étoilé ou futurement étoilé comme chez Amélie, ce n'était pas possible, c'était mal vu, la clientèle le vivait mal.
Les choses changent, qu'on se le dise, et les femmes sont dans la place. Et à ce propos, je vous signale un joli guide qui s'appelle Chef 2FES, 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France. Et c'est un livre signé Vérane Frediani qu'on vient d'entendre, et Estherelle Payani qui est journaliste gastronomique. Voilà, des femmes chefs, il y en a, ça c'est sûr. Mais existe-t-il une cuisine de femmes, une cuisine féminine? Un débat qui agite les fourneaux, on en parle dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Les femmes chefs sont à l'honneur ce samedi à la table des bons vivants. Alors nous avons reçu Vérane Frediani pour son livre Elle Cuisine. Elle dresse les portraits de femmes chefs, des portraits sensibles et gourmands qui mettent en valeur de sacrées personnalités, parce qu'il y en a justement. Et chez les femmes aussi, la relève est en marche. On en parlait à cette table. Alors, dans votre livre, Vérane Frediani, vous avez interviewé plus de 40 femmes. On retrouve leurs recettes, en plus de leurs confidences. Est-ce que vous vous souvenez bien de Blanche Loiseau que vous avez rencontrée ?
Bien sûr, comment pourrait-on l'oublier ?
J'ai eu un coup de cœur pour cette interview quand j'ai lu votre livre, en fait.
Blanche Loiseau, elle est franche, elle est honnête, elle dit les choses telles qu'elles sont. Elle vient d'une famille de grande, la gastronomie, d'un couple, en plus, qui travaillait vraiment main dans la main. Donc, je crois que c'est un parfait exemple de ce que la gastronomie française peut nous apporter de meilleur dans les années qui arrivent.
C'est la fille de notre regretté Bernard Loiseau, le chef de ce lieu. Elle est avec nous au téléphone, justement, Blanche Loiseau. Elle travaille en ce moment chez Rennes et Nadia Samut, dans le Luberon, à Cadenet. Bonjour Blanche.
Bonjour à tous.
On est ravis de vous entendre. Pour vous, le monde des cuisines professionnelles, c'est naturel. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite.
Ah oui, moi je suis complètement tombée dans la marmite. Je me suis toujours baladée en cuisine. J'ai toujours voulu faire ça. Et c'est vrai que je pense que c'est un avantage pour moi, parce que du coup, ça me fait pas peur d'aller en cuisine. S'il y a un problème, de m'exprimer, d'être là, parce qu'on sait déjà comment ça marche.
Comme disait votre papa, vous avez la niaque.
Un peu, oui. Hein, on taquait tous les matins.
Comment vous le ressentez, ce monde des cuisines professionnelles ?
Pour moi, c'est le plus beau métier. J'aimerais rien faire d'autre. Après, malheureusement, c'est que ça existe, le sexisme, les insultes, la violence. On serait pas là pour en parler si ça n'existait pas. Heureusement, je trouve que c'est avec les générations qui arrivent, quelque chose qui se voit de moins en moins, heureusement, mais ça existe encore, malheureusement.
Est-ce qu'une cuisine de femme, ça existe? Là, vous travaillez chez Rennes et Nadia Samut, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment de faire une cuisine différente, une cuisine de femme, comme on dit?
Moi, ça me saoule. Je suis désolée, mais qu'est-ce que ça veut dire, une cuisine de femme? Moi, mon péché mignon, c'est de me fumer un cigare et de boire un whisky sans glace.
Ah,
à
voilà.
Modération, bien sûr. Est-ce que c'est masculin? Moi, je ne trouve pas ça masculin. Donc je trouve que c'est une cuisine d'individus.
Oui.
Là, c'est la cuisine de Rennes, de Nadia et son compagnon Ernest. Après, je suis allée manger chez un sulpice il y a quelque temps. Et ben lui aussi, il utilise énormément de feuilles, de fleurs, mais ça n'en fait pas une cuisine féminine.
Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. En fait, tout ça est en pleine mutation. Notre cuisine est en plein mouvement, notamment chez Rennes et Nadia Samut, chez qui vous êtes actuellement, parce que Nadia Samut est totalement allergique au gluten, mais c'est la vraie maladie cœliaque qui est là. Donc elle compose sa cuisine à partir de ça. Vous apprenez des choses, justement, autour de ces contraintes alimentaires, là?
Énormément. C'est pour ça que Nadia, elle appelle ça une cuisine libre. C'est une cuisine libre de gluten. Et on fait pas des plats santé, on fait des plats que elle pourrait venir manger dans son restaurant. Donc c'est gourmand et c'est intéressant. C'est vraiment impressionnant pour le pain, la pâtisserie, tout ce qu'on fait jour après jour. Sans gluten, on se remet en question, c'est incroyable.
Ah, elle a de qui tenir, hein, Blanche Loiseau, elle a de la personnalité.
Ah, elle est fantastique.
Ouais, surtout qu'elle a un discours, je trouve, qui est très positif et qui est très intelligent, parce qu'il n'y a pas de sexe en cuisine, il y a la cuisine d'émotion et la cuisine d'auteur.
Une cuisine d'individu,
et comme
elle
disait Paul Bocuse, il y a la bonne et la mauvaise.
Exactement. Il n'y a que deux types de cuisine, absolument. Comment vous avez appris la cuisine? Avec qui vous avez appris la cuisine, Yves Condebord?
Moi, je suis tombé en cuisine un peu pratiquement par hasard, c'était plus par... envie de quitter le milieu familial, me retrouver tout seul. Donc, puis de fil en aiguille, j'ai eu la chance de rentrer à l'hôtel Ritz à Paris et j'ai rencontré Christian Constant, qui a été ma rencontre professionnelle et même une rencontre de vie, voilà, qui m'a sensibilisé, qui m'a fait comprendre que voilà, cuisiner, c'était pas simplement nourrir les gens, aussi c'était y mettre de l'âme, y mettre une philosophie, y mettre du respect et amener avec nous tous les gens qui nous amenaient ces produits-là.
Mais c'est pas la mère Brasier alors.
Non, c'est Christian Constant.
Je vous déçois, je suis désolé messieurs.
Christian Constant qui a eu le prix de la transmission il y a quelques mois par le guide Michelin parce qu'il a quand même formé beaucoup de chefs d'aujourd'hui, Jean-François Piège, Éric Fréchon, Emmanuel Renaud. Enfin, voilà, une belle bande de chefs. Anne-Laure Femme.
Je veux faire juste un petit retour un petit peu sur la situation des femmes. Je suis aussi moi ravie de l'ouverture de la parole avec tout le phénomène MeToo et compagnie, hommes comme femmes, disons-le, s'ouvrent plus facilement sur les problèmes qu'ils subissent en cuisine et ils sont nombreux. Il faut pas arrêter de les écouter, il faut relayer leurs paroles.
Et parler, voilà, comme toujours, il faut parler et il faut dire les choses. Alors, Blanche Loiseau vient de quitter justement la maison de Rennes et de Nadia Samut. Elle fait une petite pause là à Saulieu et ensuite elle va partir au Japon pour continuer à découvrir la cuisine qu'elle aime et qui est toujours à découvrir. L'été et les vacances sont une bonne occasion d'aller au restaurant. Alors, comment bien choisir? Ne bougez pas, on revient pour jouer aux critiques gastronomiques. A tout de suite.
11h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
C'est l'été, les vacances, prenons le temps de cuisiner, le temps d'aller au restaurant et le temps de manger des abricots. Vous en êtes à combien d'abricots depuis 11h, Yves Condebord?
12, il y en a.
Non, n'exagérez pas, je dois avouer que l'abricot est mon péché mignon.
Ah, j'adore.
Ça se vérifie, ouais.
J'en suis à 5, Laurent.
C'est raisonnable.
Donc Yves a un bon transit.
Alors, non, il y a une belle acidité. Moi, je trouve que ce gras, ce velours et cette acidité, c'est magnifique.
Je suis d'accord. Et puis, vous n'avez pas à vous cacher parce qu'en fait, vous avez Olivier Pouls. Il en a 9 noyaux et il les planque directement sous la table.
Mais j'adorerais, mais une fois encore, je ne peux pas en manger. Passez-moi un morceau de pâté en croûte, bien plutôt.
Alors, ce n'est pas toujours facile de choisir un restaurant quand on ne connaît pas la région, quand on n'est pas un habitué des restaurants, tout simplement. Il y a plusieurs méthodes. Votre méthode, tiens, petit tour de table rapide ici au Bon Vivant. Anne-Laure Femme, c'est quoi? C'est les guides, le bouche à oreille, Internet?
Une appli Mapster, M-A-P-S-T-R. Qui me permet de partager mes bons plans avec mes amis. Très pratique.
Olivier Pouls.
J'appelle des copains vignerons, producteurs, chefs, et je leur dis, tiens, où est-ce qu'il faut que j'aille?
Et Yves Condebord?
Moi, j'aime bien les guides. Moi, j'aime bien les guides parce que j'aime bien lire la sensibilité d'un journaliste quand on trouve des bons journalistes qui arrivent à vous faire passer le goût de l'assiette, l'ambiance du restaurant. Pour moi, c'est hyper important.
Eh ben alors, vous me faites ma transition parce que cette année, nous avons reçu François Simon, le critique gastronomique réputé pour son exigence et sa plume parfois trempée dans l'acide. Il a fait les grandes heures du Figaro, du Monde. Il sévit aujourd'hui pour le magazine Air France et sur son blog Simon 16. Il a écrit plusieurs livres, dont Comment se faire passer pour un critique gastronomique, paru chez Albin Michel il y a une dizaine d'années. Alors justement, quand il est venu, je lui ai demandé quelques tuyaux pour faire le bon choix au restaurant La Bonne Table.
L'idéal, c'est de passer dans le restaurant d'abord. Comme ça, vous repérez tout de suite l'endroit, vous voyez si c'est propre, si les gens sont de bonne humeur, si ça a l'air d'être bien, si vous voyez une assiette, et vous repérez la table que vous avez envie. Et vous dites, demain soir, avec ma fiancée ou avec mon époux, je voudrais être à cette table-là, s'il vous plaît, monsieur. Et logiquement, votre soirée, elle est déjà, vous avez déjà gagné 10 points.
Et dans votre livre, moi je me rappelle que c'est quelque chose que je mettais en pratique déjà il y a une quinzaine d'années, là, quand il est sorti. Vous expliquez qu'il faut toujours refuser la première table. Et je dois dire que ça marche souvent, effectivement, parce que souvent, quand le restaurant est un petit peu plein, on vous met une table qui n'est pas forcément bien placée.
Ah oui, pour avoir collectionné les tables près des chiottes, cher Laurent, je peux vous dire qu'il faut toujours refuser la première table.
C'est ça, hein.
Et donc, logiquement, on vous remet une meilleure table. C'est pareil dans les hôtels aussi, il faut toujours refuser.
C'est ce que je veux dire.
Il y a une odeur de tabac dans cette chambre, je me trompe ou quoi? Et logiquement, vous avez une meilleure chambre, parfois une suite.
Il est terrible. Est-ce qu'on doit juger un restaurant sur son pain?
Alors là, il n'y aurait pas beaucoup de restaurants où aller. Hein. Souvent, des restaurants, ils essayent de faire leur pain eux-mêmes, ce qui est la dernière des âneries, parce que c'est très dur de faire un beau pain.
C'est un métier boulanger.
Quand il y a un beau pain, c'est extraordinaire. Et souvent, même, c'est supérieur à certains plats. Je pense au pain de Ten Bells, par exemple, à Paris, de Pougeran. Et ça, c'est formidable. Bien sûr qu'on peut juger un restaurant sur un pain, mais ça ne s'arrête pas là, surtout pas.
Comment conserver son sang-froid face aux produits intimidants? C'est une question que vous posiez dans votre livre. C'est vrai que parfois, on est un peu intimidé par des produits, des ingrédients. Et
des
même
intitulés auxquels on ne comprend rien du tout,
et par les
d'ailleurs.
Vins aussi. Comment on fait pour pas paraître, justement?
Il faut poser des questions toutes bêtes. Et ce n'est pas gênant, il faut le faire avec amabilité. Je pense que ça, c'est la clé. Il faut vraiment jouer à l'idiot du village, mais avec beaucoup de gentillesse. Sinon, c'est un rapport de force qui est épuisant.
Et comment dépenser moins, alors, au restaurant?
On mange à sa faim, déjà. C'est-à-dire, on évite l'entrée. Moi, j'aime pas tellement les desserts, parce qu'ils sont souvent loupés, ils sont pas bons, et on a déjà pris deux ou trois verres, donc c'est stop. Non, je prends un plat sur lequel je me concentre. Et là, on quitte à prendre un meilleur plat, et plus cher, hein, que de prendre un menu, finalement, qui est beaucoup trop
roboratif,
et beaucoup trop long. Moi, je m'ennuie au restaurant au bout de trois quarts d'heure.
C'est vrai que vous dites toujours, je vous demanderai de m'apporter uniquement ce que j'ai commandé.
C'est horrible ça, oui. Bien sûr, parce que je suis né d'une génération où jeter, c'est horrible.
Non, mais vous n'aimez pas les mises en bouche, les interplats.
Ouais, c'est absurde.
Hein, les menus dégustation, vous avez
tout
du mal avec ça aussi.
Ouais.
Olivier Pouls.
Aller manger tout seul en faisant semblant de prendre des notes en permanence, c'est l'assurance d'être mieux servi.
Ah, les mecs, ils deviennent dingues là. En cuisine, ils disent quand est-ce qu'il part?
C'était la belle plume et la belle voix de François Simon que vous retrouvez sur son blog Simon 16. C'est vrai qu'il a un côté cruel, mais il va à l'essentiel. Il dit plein de vérités dans ce qu'il nous raconte.
Mais hein. La vérité, c'est ça. Il dit que des vérités. Alors, la façon de les écrire ou de les dire, c'est ce qui peut être un peu choquante. Mais quand vous analysez un article de François Simon et que vous allez souvent manger dans le restaurant après, vous ressentez exactement les mêmes choses.
Parole d'Yves Candebordes.
Europe 1, 11h, 12h30. Laurent Mariotte.
Chaque samedi, Jean-Luc Petit-Renaud nous fait profiter de ses coups de cœur ou de ses coups de gueule. Alors aujourd'hui, l'ami du déjeuner est d'humeur nostalgique, ça nous arrive parfois. Il nous emmène sur les routes au volant de nos chers commerces ambulants.
Eh bien le bonjour les compagnons de la fourchette. Cette semaine, j'ai fait une petite échappée, une échappée belle comme on a l'habitude de dire, en partant, en accompagnant un commerçant qui, avec sa camionnette, passe de hameau en hameau. Et j'ai été particulièrement ému parce que c'était la dernière tournée de ce charcutier, boucher, monsieur Bellamy, qui est à Réville, exactement dans la Manche, et il fait les quatre coins de ce département en arrivant, vous savez, en klaxonnant avec sa camionnette un peu ancienne, et tous les gens sortent de chez eux pour venir acheter leur petit morceau de viande. Et il avait pour habitude d'aller dans un tout petit bout de hameau de deux maisons pour apporter un morceau de boudin à un couple de personnes âgées. 80 centimes le petit morceau de boudin. Mais en retour, il revient avec l'ordonnance et on dit « La semaine prochaine, vous pouvez me rapporter mes médicaments ?» Et lui-même fait une sorte de facteur gourmand comme ça et il revient avec son pochon, ses aspirines et autres comprimés à prendre. Ce sont des contacts, ce sont des liens qui sont établis entre ces commerçants et ces personnes qui ne bougent plus de chez elles. Alors attention, lorsque vous voyez ces petits camions passer passer tonitruant, klaxonnant dans les hameaux, saluez-les, parce que j'ai un peu peur que ça disparaisse avec le temps, avec l'histoire, parce que ce ne sera plus, comme on dit, rentable bientôt, et on perdra un petit bout de vie, et ça m'égratigne le cœur.
Eh bien, nous sommes d'accord, cher camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Klaxonnons quand on voit effectivement ces commerces ambulants. Et puis surtout, soutenons-les en achetant effectivement régulièrement des choses auprès de ces commerçants. Olivier Pouls, des souvenirs ?
Oui, j'ai un souvenir. Quand j'étais gamin, dans la banlieue de Bruxelles, il y avait le petit camion du marchand de glace. Et on l'entendait arriver dans le quartier parce qu'il jouait de la musique. Et évidemment, il arrivait en général une heure après le déjeuner, à l'heure du dessert, et on entendait le bruit de la musique du marchand de glace. On prenait un petit peu de monnaie, on courait dehors. Il s'arrêtait, évidemment, quand il voyait arriver les gamins. C'était fantastique.
C'est magique. Anne-Laure Femme, une adresse, tiens, justement.
Moi, je vous propose d'aller du côté de Aix et d'aller à la rencontre de Lauriane Thénon-Meyer et de son camion qui recèle 300 produits vendus en vrac, sans emballage. Ça s'appelle Au Poids. Ah oui. Chiche, ou poids, P-O-I-D-S, évidemment. Allez-y, guettez-la. Elle prend ses vacances en août, mais vous avez encore quelques jours en juillet pour aller profiter de son petit camion qui a l'air vraiment génial.
Local et écolo, c'est tout ce qu'on aime. Si vous envoyez cet été un chouchou télé, ce sont les derniers. Les artisans, c'est vrai, on le disait, font aussi le lien social. N'oublions pas ça. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
11h30, Europe 1, Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus, hein, si vous nous rejoignez à la table des bons vivants. On se met à l'heure d'été avec des dossiers et des recettes de saison, sans oublier la crème des invités passés par le studio Coluche, ici à Europe 1. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir quand on reçoit un grand chef tel qu'Alain Ducasse, jamais rassasié de travail et de découverte, de passer un moment avec lui à cette table. Alain Ducasse, toujours en quête de nouveautés. Tiens, mes petits camarades, Anne-Laure Femme, Yves Candebord et Olivier Pouls, je vais vous demander, tiens, un adjectif pour définir Alain Ducasse. Anne-Laure Femme.
Omniprésent, on le voit partout.
Yves Candebord.
Respect.
Olivier Pouls.
Globetrotter.
Globetrotter.
C'est vrai qu'il y a un film qui a sorti sur lui il n'y a pas très longtemps. Il passe sa vie dans les avions. Il est insatiable de curiosité, de dégustation et de goût. Et c'est assez impressionnant.
Eh bien, il était à notre table il y a quelques temps. Question rituelle dans cette émission, Alain Ducasse. Quel est le goût qui a marqué votre semaine ?
La mer. Je suis obsédé par la mer. Et juste après, l'acide. On a banni le sucre, tant que faire se peut.
Ah oui, alors vous ne parlez pas des produits de la mer, vous parlez
la
de
mer,
la saveur,
l'amertume.
Alors ça, c'est vrai que c'est une saveur qu'on a du mal à maîtriser, à dompter en France. Les Italiens sont très forts sur l'amertume, notamment avec les salades amères, mais nous, on a du mal avec ça.
J'ai une passion, donc je vais l'imposer, la partager avec mes chefs et puis tout de suite après, avec mes clients.
Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous pousse comme
ce que je ne connais pas encore.
Oui,
parce que je vais goûter la semaine prochaine, je m'en vais au Japon lundi et je suis sûr que je vais découvrir au moins quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui me permet d'être dans cette quête permanente de ce que je ne connais pas encore.
Vous venez d'ouvrir un bateau flottant sur la Seine, 100% électrique, ultra écologique. Ça veut dire que les chefs aujourd'hui doivent avoir cette conscience écologique selon vous ?
Oui, il faut qu'ils déclarent moins, il faut qu'ils fassent un peu plus. Il y a ceux qui font et ceux qui parlent.
Oui, on en a parlé justement avec les plats préparés tout à l'heure. Un mot, tiens, sur les plats préparés des chefs cuisiniers qu'on évoquait tout à l'heure. Ces chefs, ces grands chefs, vous ne l'avez jamais fait, hein, mais qui...
Parce que j'ai jamais pris le rendez-vous, hein, pour pas être tenté pour signer des contrats avec les gros de l'agroalimentaire. Il faut pas les rencontrer parce que les propositions financières sont certainement très séduisantes. Donc je n'ai jamais accepté de rendez-vous, donc c'est pour ça que je n'en fais pas. Et d'ailleurs, je dois avouer que mes confrères le font tellement bien que je n'ai pas besoin de rentrer en cette course.
Voilà, c'est dû à Alain Ducasse. Ben, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est vrai. Hein. C'est vrai que certains chefs, on va être honnête, hein, prônent le bien manger et l'importance de cuisiner, et en même temps, ils vendent des repas en poudre. Suivez mon regard, je dis personne.
Il y a un petit côté paradoxal de temps en temps. Oui.
Mais s'ils peuvent améliorer en même temps certains produits agroalimentaires, pourquoi
pas ? Vous êtes quand même gentil de dire que c'est paradoxal. Hein.
Yves Candebord, allez-y.
Moi, je trouve que c'est un scandale. Voilà. Il faut le dire, c'est honteux.
Il faut être cohérent.
Quand aujourd'hui, on défend l'artisanat, qu'on défend le petit producteur et qu'on se retrouve en tête d'affiche d'un rayon en proposant du couscous ou de la garbure ou du pâté croûte à des gens, malheureusement, qui vont croire que c'est de la grande gastronomie, c'est une supercherie. Et je pense que déontologiquement, c'est un scandale.
Et ben voilà, donc faisons la cuisine soi-même à la maison. On en revient toujours à ça. La table des bons vivants est éclectique. C'est un grand mezzé hein, des personnalités. Et dans la famille des chanteurs populaires, nous avons reçu Dave, bon chanteur, mais aussi cuisinier amateur. Il était venu nous voir à l'occasion de la sortie de son livre « Cuisinez-moi ». Et c'est ce que nous avons fait tiens, pour découvrir Dave côté fourneau. On l'a
cuisiner. Vous avez eu plusieurs vies côté cuisine parce que vous avez grandi en Hollande, c'est on vrai. Le sait, la cuisine traditionnelle et bourgeoise française, la découverte de la cuisine provençale et méditerranéenne.
Ah, ouais. Et puis mes voyages, parce que moi quand j'étais dans les célèbres creux de la vague dans les années 80, j'ai fait beaucoup de croisières et c'est pas un jeu de mots. Et donc j'étais dans des pays aussi improbables que la Birmanie ou l'océan Indien. Et alors il y a des gens quand ils viennent à Paris, ils se le comprennent qu'ils achètent des petites tours Eiffel. Moi quand je suis en voyage, j'achète des épices comme souvenir. Parce que quand tu rentres chez toi, que tu fais la cuisine, tu as des retours au pays dont tu viens, quoi.
Et c'est pas lourd.
Et ça prend moins de place, et rien de tel que les épices pour voyager.
C'est formidable. Je trouve ça formidable. Le marché, je sais pas, de Port-Louis à l'île Maurice, ou en effet, le marché des Belém au Brésil, enfin, ça fait des souvenirs exceptionnels. Et c'est dans le livre, quoi.
Alors, chaque samedi à nos invités, on pose la question suivante. Dave, quel est le goût qui a marqué votre semaine?
Ah ben, moi, c'était le fish cook, c'est les croquettes de poisson que j'ai fait pour cette émission.
Parce oui.
Je me suis fait engueuler parce que mon compagnon m'a interdit de faire des poissons à la maison. Il trouve que ça pue. Déjà, mais il est végétarien pour commencer.
C'est vrai que vous n'êtes pas très compatible au niveau culinaire parce que qu'est-ce que vous l'avez fait comme recette quand vous vous êtes rencontrés?
Je lui fais des cervelles, il est végétarien. Bon, il faut être un peu con pour faire des cervelles pour quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'adore les abats. Je veux dire, les riz de veau, c'est... J'ai fait des riz de veau pour Michel Drucker, il était obligé de dire à sa femme c'était du riz et je n'ai pas mangé le veau, il a dit.
Alors, on aime bien tester des choses ici aussi à cette table. Alors, je ne sais pas si vous allez être preneur de ce qu'on va vous faire goûter. Ça fait beaucoup débat. C'est soi-disant quelque chose qui fait partie de notre avenir culinaire. C'est Anne Lorfam qui se jette dans une aventure ce samedi. Qu'est-ce que vous voulez nous faire goûter, Anne Lorfam?
Des insectes, par exemple.
Quelle horreur.
Des grillons, des larves, des choses comme ça. Alors, en fait, ça fait un moment que les médias en parlent.
Oui.
Et que, notamment, le Fonds national des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dit à quel point les insectes représentent l'avenir en termes d'apport de protéines. Ça concerne 2 milliards de personnes dans le monde quand même. Donc on est un petit peu en retard, nous, en France, en Afrique, en Australie.
Du pâté en croûte.
Fuyez, Olivier, fuyez. En Chine, en Thaïlande, on s'y met. Et surtout, soulignons-le, c'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est un faible coût environnemental, les insectes. Déjà, 80% de l'insecte est comestible et ça produit des aliments pour un très faible coût pour la planète. Ça contribue positivement à la subsistance des populations, y compris celles qui n'ont pas trop les moyens. Et ça joue un rôle fondamental dans l'équilibre de la nature.
Moi, j'ai goûté plusieurs fois lors de voyages des insectes. En fait, ça n'a pas de goût, c'est très neutre.
Je suis pas tout à fait d'accord, je pense que c'est un petit goût de noix et de céréales, en tout cas ceux que j'ai goûtés. Vous avez ici des vers molitor, donc ça devient un petit scarabée ensuite, si vous voulez savoir ce que ça devient. Et les grillons, vous les avez en nature, vous les avez aussi disponibles avec des épices. Alors je précise que le prix, c'est le prix d'un petit luxe quand même, c'est entre 7-8 euros les 15 grammes.
Eh oui, en plus.
Ça rassasie, soit, mais à un prix assez conséquent, hélas.
On préfère le pâté en croûte.
Comme tous les produits un peu précurseurs, on ne désespère pas. Ça n'existe pas encore en bio parce qu'il n'y a pas le cahier des charges. Mais pourquoi pas, d'ici 5-10 ans, je suis persuadée qu'on va en manger. N'hésitez pas.
Merci. Là, c'est quoi alors, cette petite crotte?
C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils mangent, la petite crotte? C'est quoi?
Alors là, ce sont les grillons de chez Jiminy's.
Si c'est du Jiminy's, ça va.
Eh ben quelle histoire! Vous nous avez réussi à nous faire manger des insectes, à Anne Lorfam. Et à propos de Dave, je vous signale son livre qui est toujours en vente, Cuisinez-moi, aux éditions du Cherche Midi. Et il sera le 18 novembre en concert à Bobino. Ne bougez pas, on revient juste dans un instant avec un plat de chef simple et familial, un plat d'été comme on les aime. A tout de suite!
Allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bon été, bonnes vacances à la table des bons vivants, les amis. Toute la bande est au complet autour de moi ici au studio Coluche à Europe 1. Anne Lorfam.
Présente.
Yves Cordebord.
Toujours là.
Olivier Pouls.
Et bien de même.
Produits de saison, conseils et recettes, débat autour de notre alimentation. Nous sommes là pour vous aider à cuisiner l'été. Alors chaque samedi, nous allons à la rencontre des chefs pour leur demander leurs recettes d'été simples et familiales. Vous savez, la recette qui fait mouche chaque été en famille. Tiens, je vais vous poser la question ici à cette table. Anne Lorfam, la recette d'été qu'on vous réclame en famille ou entre amis?
Eh bien, je vais pousser la caricature de la vietnamienne parce que ce sont les rouleaux de printemps à la sardine en fait qu'on me réclame.
C'est bien, la sardine.
Mais moi, je vous en réclame, je n'ai jamais goûté.
Ah ouais, mais ouais.
On en veut.
Et ben, je vous en rapporte la prochaine, pas de problème, les gars.
Olivier Pouls.
Alors moi, j'ai éduqué mes enfants, peut-être pas très bien d'ailleurs, dans l'univers de la viande. Et donc, si je veux les attirer l'été, je leur dis il y a des côtes de bœuf au barbecue.
Et
ils raboulent immédiatement.
Ah, ça c'est bien. Et Yves Cordebord?
Eh bien, moi, je viens d'un village qui s'appelle Navarinx, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, et qui est la capitale de la pêche au saumon. Et la spécialité que ma grand-mère faisait, c'était le saumon béarnaise. Donc, tous les étés.
Vous refaites
ça
pour
la famille, pour leur faire plaisir.
Ah, c'est super.
J'en fais du saumon béarnais.
Le saumon de l'Adour,
du coup. Beau, le saumon sauvage de l'Adour, bien sûr.
Ce samedi, c'est Michaela Liaroulsos, qui est une jeune chef d'origine grecque, qui joue avec la cuisine traditionnelle française et les produits méditerranéens, qui va nous faire le plat du jour. Écoutez bien, c'est une moussaka, c'est hyper simple. Son restaurant s'appelle Etsy à Paris, dans le 18e arrondissement. Voici sa recette de moussaka pour l'été.
Idéalement, pour faire une moussaka, il faut confire donc sa viande la veille avec sa garniture aromatique. Et je mets de la carotte, du navet et je tomate pas mal. Je mets un peu de concentré de tomate. Faut laisser bien mijoter tranquillement à feu doux pendant 2-3 heures. Faut tailler ses aubergines en tranches. Et j'aime les snacker. J'aime que l'aubergine, elle soit presque un peu grillée. On les débarrasse, on les assaisonne avec un petit peu de sel, de poivre, un petit peu de piment fumé, un peu d'origan. On monte en étage dans son plat à gratin. Aubergine, viande hachée, aubergine, viande hachée. Et on vient terminer avec la béchamel. De la farine et du beurre, tant pour tant. On vient ensuite verser le lait, ça va faire une sorte de crème. On retire du feu et là, donc moi, dans ma recette, je rajoute un fromage fumé. Chacun met ce qu'il veut, alors du parmesan, c'est hyper bon. Et on vient verser la béchamel chaude et assaisonnée. Elle est un peu coulante, elle vient se mélanger aussi avec le reste des aliments. Parfois, quand tu manges la moussaka traditionnelle de taverne, c'est des gros étages, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est que tout se mélange et après, tu viens saucer avec le pain. Là, on enfourne à 180, 2 bonnes heures dans le four. C'est comme, en fait, tous les plats de ragoût. C'est quelque chose de tout doux, de réconfortant. C'est censé être réconfortant.
Ah, elle la raconte bien. Ah, elle la
c'est
raconte terrible. Bien.
Elle a tout dit. Elle a tout dit.
Ah, tout est dit. Ouais. C'est vrai ce qu'elle raconte. Effectivement, dans les tavernes en Grèce, il y a des grosses tranches comme ça d'aubergines et puis il y a des couches. Effectivement, sa moussaka, pour l'avoir goûté, tout se mélange et tout se confond avec la béchamel qui est indispensable à la moussaka, Yves Candebord. Hein.
Oui, je veux bien, mais je pense que l'été, je me passerai bien de béchamel. Laurent.
Alors, vous mettez quoi à la place? Qu'est-ce qu'on
moi,
fait
à la limite, je ne préfère pas mettre de crème là-dedans. Je pense que déjà les aubergines, la tomate, l'origan, le piment fumé, voire un petit fromage, comme on disait, un fromage fumé dessus, je pense que c'est pratiquement
suffisant.
C'est déjà
très crémeux en fait l'aubergine.
Ouais,
en
mais
soi.
Le rapport de la gourmandise, la béchamel. Hein.
moi je la prends. Hein,
vous la prenez
surtout à cette heure-ci, j'ai un trou dans l'estomac.
Oui, c'est vrai que
c'est...
il fait faim.
C'est le cas de dire si vous avez un trou dans l'estomac, c'est bien de mettre un plat de béchamel. Ça bouche le trou.
Elle fait un très joli poulpe grillé également, Michaela Liaroulsos, que vous pouvez aller voir dans son restaurant donc à Paris si vous êtes parisien, dans le 18e arrondissement. Alors l'été, c'est une bonne saison hein, pour prendre ou reprendre le chemin des fourneaux et du barbecue. Alors tout au long de la semaine, le 39-21 attend vos questions. C'est le moment d'y répondre. Juste après ça, à tout de suite. Merci d'être avec nous et bon été, bonnes vacances.
11h, 12h30, Europe 1. Laurent Mariotte.
Il est midi passé, soyez les bienvenus à la table des bons vivants. Anne-Laure Femme, Olivier Pouls et Yves Candebord ont dressé le couvert à mes côtés. Alors avant de répondre aux questions que vous avez posées au 39-21, je vais vous demander, Olivier Pouls, tiens, le vin que vous allez sortir ce samedi à vos invités, parce que je sais que vous êtes un adepte des barbecues, des grillades, de l'agneau, il y a tout quand vous allez chez Olivier Pouls. Hein,
beaucoup de viande, non?
Non, il y a des légumes aussi. Depuis qu'il est à cette table, il y a des légumes.
J'ai découvert les légumes, en fait, cette année, grâce à vous, mon cher Laurent. Merci beaucoup. Et j'en mets même sur le barbecue. Alors, qu'est-ce que je vais boire? Je vais tout vous dire de ma vie, hein, puisque vous...
veut savoir.
Voilà, j'ai la chance d'avoir une petite maison de campagne en Bourgogne, et donc je vais boire local. Et il y a une appellation qui est très peu connue, qui s'appelle Vézelay. D'abord, un très joli village. Il faut aller visiter Vézelay.
Son église.
Et son église, exactement. Et puis, tout autour, il y a de très jolis vignobles. Et voilà, je vais boire du Vézelay parce que, d'abord, j'aime être locavore aussi quand je consomme du vin, mais parce que c'est vraiment une appellation à redécouvrir. Et il y a des vignerons qui font du très, très beau travail.
Et ce sont quels cépages, Olivier?
Alors, ce sont des cépages bourguignon traditionnel, donc on trouve du blanc à base de chardonnay, on trouve un petit peu de vin rouge à base de pinot noir essentiellement.
Okay.
Et on trouve même un petit peu de melon de Bourgogne dans certains
cas. Ah oui. Alors tout l'été, on répond aux questions que vous posez au 39-21. On continue en été, bien entendu. Voici une question posée sur notre répondeur cette semaine, le 39-21.
Bonjour Lorian, bonjour Laurent, je suis Corinne de Nevers et je voudrais savoir ce qu'on peut faire avec les fans de radis à part les mettre dans une soupe. Voilà, merci.
Ah oui, on connaît tous, effectivement, la soupe de fan de radis. On peut en faire plein de choses. Alors, personnellement, moi, j'aime bien en faire un pesto de fan de radis quand elles sont bien vertes, bien fraîches, les mêmes proportions et les mêmes ingrédients que pour un pesto avec du basilic, de l'huile d'olive, du parmesan et des pignons de pain. On peut mettre des noisettes aussi à la place des pignons de pain. Yves Candebord, je sens que vous avez plein d'idées avec les fans de radis.
Oui, parce que moi, j'aime ça, parce que justement, il y a ce cette petite amertume dans la fin de radis. Alors, ce que je fais avec, je les cuis dans une eau bouillante salée. Je les fais bien cuire. Une fois qu'elles sont bien cuites, je les rafraîchis, je les égoutte et je les mixe. Donc là, j'ai une forme de purée assez dense de fin de radis. Après, Laurent, je fais une mayonnaise sans moutarde. Une mayonnaise bien serrée sans moutarde. Et une fois que ma mayonnaise est réalisée, je mets ma purée de fin de radis dedans. Donc, je me retrouve avec une préparation de mayonnaise de fin de radis. Et je prends...
Une mayonnaise toute verte, c'est une mayonnaise de Shrek.
Ça fera une mayonnaise, ça fera une mayonnaise verte. Je prends mes radis et je trempe mes radis dans cette mayonnaise de fan et je les mange. Et c'est une continuité avec le piquant du radis, l'amertume de la fan et un peu, je dirais, le crémeux de la mayonnaise. J'adore ça.
Mais quel génie.
Zéro déchet.
Mais il est génial.
Ce n'est pas l'inventeur de la bistronomie pour rien, vous savez. Mais c'est super parce que moi, je suis comme vous, j'aime bien profiter d'un produit du début jusqu'à la fin, de la fane jusqu'à l'extrémité, effectivement, du légume. On peut faire des beurres de fane de radis aussi. Moi, je m'amuse à mixer, par exemple, les fanes de radis, un petit peu de citron pour pas que ça s'oxyde, et vous les mélangez à un beurre mou que vous faites redurcir ensuite au frigo, et ça fait un beurre de fane de radis. Anne-Laure Femme.
Comme pour les fanes de carottes aussi, moi, j'aime bien les récupérer. C'est important qu'elles soient bien vertes et bien fraîches, parce que quand c'est sec, pour le coup, c'est pas super bon à la bouche, hein, je dirais. Je suis plus sceptique pour l'utilisation une fois que c'est sec. Mais par contre, je les blanchis vraiment une minute et demie, et après je les émince et je vais les mettre dans une omelette.
Ah oui,
et
bien.
En fait, ça vous fait comme une petite touche de verre qui tombe à pic et qui vous pimpe l'omelette comme il faut.
Ils sont forts, hein, ces bons vivants. Alors une question posée maintenant au 3921 par une voix féminine que vous connaissez, très appréciée des auditeurs d'Europe 1. Elle est vive, curieuse et très sympathique. Vous la retrouverez bien entendu à la rentrée. Écoutons.
Bonjour, c'est Wendy Bouchard. Bah, ravie d'être avec vous, les amis. J'ai une petite question, parce que c'est vrai que l'été, on a toujours envie de fraîcheur, on a quand même envie de se faire plaisir. Et je me demande si c'est une ineptie de cuisiner les pâtes en salade froide et comment on fait pour avoir une belle salade de pâtes appétissante.
Ah non, c'est pas une ineptie, Wendy Bouchard. Non. Pas du tout. Au contraire, il faut faire des salades de pâtes en été. Alors déjà, on fait cuire des pâtes spécialement pour la salade de pâtes. Hein. Alors s'il en reste, évidemment, on les customise. Mais l'idéal, c'est de repartir avec des pâtes juste cuites pour la salade.
Ouais, les spaghettis, c'est pas terrible. On choisit aussi des pâtes d'un calibre un peu plus gros.
Faut qu'elles gardent la sauce, en fait.
Des rigatoni, des fusilli, des torsades, des penne.
Moi, je pense qu'il y a une chose importante quand on fait une salade de pâtes. Quand on fait la salade de pâtes l'été ou la salade de pâtes l'hiver, parce que ça marche. Moi, j'adore la salade de pâtes aussi l'hiver. Mais la grosse différence, Laurent, c'est quand on l'a fait l'été, c'est un tiers de pâtes, deux tiers de garniture.
Et, oui.
Et quand on l'a fait l'hiver, c'est deux tiers de pâtes, un tiers de garniture. Alors, une salade de pâtes très simple à faire pour l'été, c'est bon, on cuit ses pâtes, bien sûr, al dente. Après, j'ai envie de vous dire, al dente selon les goûts.
Oui, oui.
Si vous les aimez plus crémeuses, vous avez le droit de les faire plus crémeuses.
On a tous
on
les
ne
droits,
vous
oui.
dira rien.
Exactement.
Et après, Laurent, c'est pas par exemple faire une basquaise ou une pipérade ou une provençale,
avec
une ratatouille. Voilà, quand vous avez une belle ratatouille, une belle basquaise, vous la mélangez avec vos pâtes. Vous faites un tiers, deux tiers, et vous y rajoutez dedans parmesan, basilic, un peu d'huile d'olive. Mmh. Et ça va vous faire une salade de pâtes qui va être humide. Parce qu'on a besoin d'humidité, on a besoin de fraîcheur l'été. Parce que sinon, des fois, elles sont à peine un peu sèches. Il faut vraiment garder cet équilibre été. Un tiers, deux tiers, et l'hiver, on fait l'inverse.
Et le choix des pâtes, vous avez raison. Moi, j'aime bien faire aussi avec des conchiglioni. Vous savez, c'est ces pâtes en forme de coquillage qui sont généreuses et accueillantes. Et vous faites une sauce avec du chèvre frais, de l'huile d'olive et une belle concassée de tomates. Et vous y allez, hein, vous en mettez beaucoup, quelques feuilles de basilic et vous mettez vos conchiglioni ou alors d'autres pâtes à l'intérieur. Et comme vous dites, c'est vrai, c'est l'humidité qui compte, Yves Candebord.
Oui, la fraîcheur, on a besoin de fraîcheur.
Et je dirais que le gras compte aussi, parce que souvent, la salade de pâtes va être un petit peu sécosse. Donc, c'est pas mal de mettre un extra de sauce à côté de l'assiette pour que les gens dont le goût se dirige plus vers quelque chose de plus généreux et plus gras puissent se resservir de la sauce. Sauce gingembre, échalote et compagnie, allez-y, plein d'herbes aromatiques.
Qu'est-ce qu'on boit avec la salade de pâtes d'Yves Candebord, d'Olivier Pouls avec sa ratatouille et son parmesan?
Oh ben moi, ça m'évoque tout de suite l'été, ça m'évoque les vins du Sud. Alors, allons en Provence, allez, faisons-nous plaisir. Peut-être pas avec un blanc, peut-être pas avec un rosé, mais avec un rouge provençal, ça pourrait marcher très bien, surtout avec ces notes de tomates
et les coteaux
et
varois en Provence.
Ben,
vous en parlez jamais
ça,
des coteaux varois.
Ça. Alors on va vous faire plaisir, on va boire un bon coteau varois,
c'est bien.
Un petit peu frais.
Avec modération, avec plaisir. Les amandes, les noix et les légumineuses n'ont pas le monopole de la vente en vrac. Le vin aussi y a droit. On y revient justement avec Olivier Pouls et deux journalistes à l'affût de l'actu et des bonnes tables qui seront avec nous, Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse. A tout de suite sur Europe 1. Bon été, bonnes vacances au Vénard.
11h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Soyez les bienvenus hein, si vous venez d'arriver. Nous sommes samedi, bientôt midi et demi. Il n'est jamais trop tard hein, pour rejoindre la table des bons vivants. Nous sommes là avec notre panier d'abricots depuis le début.
Laurent, il n'est jamais trop tard pour s'asseoir à table. Jamais.
Nous sommes d'accord. Alors la table des bons vivants, justement, vous accompagne tout l'été, comme vient de le dire Yves Candebord. C'est une bonne saison aussi l'été pour se réapproprier notre alimentation et comprendre ce que nous mangeons. On essaye vraiment avec nos dossiers et nos débats chaque samedi de vous aider à bien cuisiner. Et c'est vrai qu'en été, eh bien, on prend le temps d'échanger, de partager autour d'un bon repas. Et côté vin, Olivier Poul, cette année, vous avez voulu nous convertir au Cubi. Vous vous souvenez ?
Absolument.
Hein ? Cette boîte en carton posée au bout de la table du jardin à Londres.
J'assume, et surtout en ce moment où on est plus nombreux dans la maison, où on fait des fêtes, où on fait des barbecues, etc. C'est un contenant qui est écologique et idéal pour des vins estivaux.
Eh bien, tout ce que vous avez voulu savoir sur le Cubi, c'est maintenant.
C'est vrai que ça n'a pas toujours eu bonne réputation. Le traditionnel Cubi, à l'époque, on imaginait les piquettes à l'intérieur.
La villageoise.
Eh bien oui, c'est vrai que souvent, les vins qu'on y trouvait n'étaient pas bons. Mais depuis quelques années, les techniques ont considérablement évolué, et notamment le système de poche en plastique qui contient le vin, qui est une poche en plastique hermétique, qui va se rétracter au fur et à mesure qu'on va consommer le vin, et qui va le protéger de l'oxydation. Et donc ça change tout parce que ça permet de garder pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, votre vin dans un état de conservation impeccable. Il ne va pas s'oxyder. Et ça présente plusieurs avantages en réalité. Le premier avantage, c'est le prix. Vous payez entre 15 et 20% moins cher parce que vous n'avez pas évidemment la bouteille. Et puis, vous gérez votre consommation comme vous le voulez. On peut dire ce qu'on veut quand vous avez ouvert une bouteille. Entre 24 heures et 36 heures après, il faut l'avoir consommé, sinon le vin perd vraiment de ses qualités. Et là, si vous avez envie d'en prélever simplement un verre, il n'y a aucun problème. Vous pouvez terminer votre bibe qui va faire 2 ou 3 litres sur le mois.
Ah oui, sur le mois, carrément.
Ça garantit une fraîcheur entre 3 semaines et 1 mois. Vous n'avez aucun problème de conservation. En revanche, la seule limite, c'est si vous voulez acheter des grands crus à destination d'une cave pour les faire vieillir. Ça ne vieillit pas dans le Cubi. Les Cubis ont une durée de vie. Voilà, après la mise en bouteille, c'est 6 mois à peu près.
Et oui, on ne vieillit pas les Cubis. Hein. C'est pas la peine d'aller acheter plein de Cubis. Yves Candebord, ça vieillira pas bien dans votre cave.
Non, je ne vais pas en acheter. J'en suis conscient.
Mais même pour la restauration, c'est très pratique.
Merci le Cubi.
Merci.
Le Cubi, on dit oui.
Acteur, chanteur, économiste, journaliste, nos invités partagent le goût des autres et de la gourmandise. Alors nous sommes ravis de les accueillir chaque samedi. Anne-Claire Coudray, journaliste et présentatrice du journal télévisé TF1 le week-end, est passée par notre table au studio Coluche. Elle profite de ses vacances en ce moment et quelque chose me dit qu'elle se régale de coquillages. Vous, la Bretonne, il doit vous arriver d'avoir des envies de fruits de mer quand vous rentrez en Bretagne, j'imagine.
Ah bah, évidemment, et puis je sais comment les pêcher, ça pour le coup. C'est vrai que quand j'étais petite, on allait très souvent à la côte, comme on dit, récupérer. Alors vous les appelez les coques, mais nous c'était les rigados. J'ai appris très vite, très petite en fait, à retrouver les deux petits trous là, qui nous permettaient de les récupérer, les bigorneaux, les moules qu'on allait chercher sur le banc de moules en face de chez nous.
Les couteaux
Les couteaux, qui sont plus compliqués.
Oui, avec un peu de sel pour les faire sortir.
Les palourdes farcies de ma grand-mère avec du beurre d'ail. Mais moi, ça m'émeut aux larmes. Et quand je rentre, c'est vrai que ne serait-ce qu'une petite assiette, aller vite fait à la côte, voilà, récupérer 2-3 palourdes, ça nous fait l'apéro.
C'est tout simple. Des pâtes, des linguinés à la vongolée, franchement, c'est très simple. On ouvre les coques ou les praires ou les palourdes et on les met comme ça sur des pâtes al dente avec une belle huile d'olive parfumée avec de l'ail. Ça, franchement, c'est un plat unique qui est revigorant en plus parce qu'il y a du zinc, du magnésium, il y a plein de bonnes choses dans les fruits de mer.
Ouais, c'est vrai. Les huîtres. Les oursins.
Mais vous y connaissez parfaitement, Éclair Coudray.
Les langoustines. Nous, on n'est pas foie gras en Bretagne, mais on est langoustines. C'est vraiment le plat de fête, en fait, la langoustine.
Ah, la langoustine. C'est la pleine saison de la langoustine. Ouais. Une langoustine achetée bien vivante le long de nos côtes en ce moment. Vous enlevez la carapace, vous l'aplatissez avec du film alimentaire pour faire un carpaccio et on l'assaisonne. Ça marche, ça
Ça marche. Juste cuit dans une eau à peine un peu salée.
Un petit courbouillon.
C'est vraiment des produits d'exception, ça se mange tout seul.
Je vais vous dire un truc, la langoustine, c'est ce que je préfère comme produit de la mer.
Alors, on a parlé du homard beaucoup dans l'actualité ces dernières semaines. C'est la saison du homard aussi.
Oui, c'est la pleine saison du homard, faut en profiter.
Exactement, il n'est pas cher.
Et il n'est pas cher, le homard.
Exactement, et on retrouvera Anne-Claire Coudray à la rentrée, évidemment, le week-end sur TF1, à partir du 30 août, pour être précis. Le week-end sur France 2, c'est Laurent Delahousse, et Laurent est passé à notre table, il fait partie des journalistes préférés des Français, et si vous voulez le découvrir de l'autre côté de la fourchette, tendez l'oreille, généreux et bon cuisinier, Laurent Delahousse a répondu au questionnaire des bons vivants. Cher Laurent, quel est le goût de votre enfance ?
Les pommes de terre à la tomate de ma grand-mère.
Ah dis donc, c'est incroyable ça, pommes de terre à la tomate.
Ouais, elle faisait des pommes de terre en cocotte avec de la tomate, de la moutarde, probablement un petit verre de vin blanc aussi pour lier tout ça, quelques petits oignons. Et j'ai bien évidemment tenté de les refaire. Et quelquefois, j'arrive à retrouver le goût exact, mais c'est ça qui est dingue. C'est que pour tous ces petits plats cuisinés, mijotés, on a beau mettre les mêmes ingrédients, on a parfois du mal à retrouver exactement ce que
c'est. On n'y arrive pratiquement jamais, mais c'est ça qui est beau aussi.
Bien sûr, bien sûr.
C'est notre mémoire.
Mais quelle mémoire on a de ça, de mémoire du goût, je trouve ça assez fabuleux.
Votre pire repas, Laurent Delahousse?
Ah non, c'est pas... Alors là, en l'occurrence, j'ai un ami qui est arrivé à la maison. C'était l'été dernier, c'était assez étonnant. Mais il est arrivé à la maison avec un ami. Il m'avait un peu dit, voilà, il est cuisinier, mais bon, tu le connais peut-être un peu, mais voilà. Et il vient donc dîner à la maison. Petit repas d'été, je me mets en cuisine. J'avais un peu la pression parce qu'il m'avait quand même parlé de cet ami. Mais voilà, il y avait pas mal de monde, entre guillemets, ma famille, mes enfants, voilà. Et qui je vois arriver? Etchebest.
Oh.
Donc imaginez un truc, j'ai une cuisine ouverte, avec un plan de travail, et derrière moi, il y a le mec de Top Chef, le mec un peu énervé, qui vient et qui s'installe. Et au début, il me dit bonjour, donc on sent la convivialité, et dès que je commence à taper un peu dans les casseroles, il vient se mettre derrière moi, tranquillement, discrètement.
Alors, 3 minutes, 4
et
minutes,
alors, il me dit,
lève les mains.
Il commence à me dire, mais et, alors tu fais quoi là? Et ben, je dis, je vais faire un crumble. Et il me dit, c'est quoi ça? Ben je dis, c'est mon crumble. Donc, avec...
Donc, l'enfer.
Le c'est quoi ça? Et le truc, tu transpires, t'en peux plus, mais t'es dans ton tablier, tu t'inquiètes, t'as ta femme qui te regarde un petit peu en compassion, qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Et en fait, à un moment donné, énorme moment de solitude, il dit, tu vas ouvrir ton four tout de suite, d'accord, ok, tu vas prendre la plaque, ok, tu vas peut-être un petit papier cello, d'accord, ok, tu vas étaler cette pâte là qui va revenir, sinon ça va faire quoi? Des boulettes,
oui, ça
va pas être fabuleux, ce qui est vrai, ça fait des boulettes, ça fait 15 ans que je fais un crumble avec des boulettes,
mais oui,
c'est
mais
tout,
mais
et il était magnifique et tout le monde l'aimait, sauf que là il m'a fait quoi? Il me l'a fait étaler, il me l'a mis au four, ce qui a fait une petite couche,
croustillante.
Après, il me l'a pris. Il m'a dit, regarde, tu vas les friter un petit peu, tu vas le mettre au-dessus de ton crumble, ce qui fait que ton crumble sera complètement différent. Et c'était magique. Donc, c'était le pire et en même temps, fabuleux.
Ça va,
c'était
ça
un moment,
bien.
Non, ça finit bien, mais c'était un moment impressionnant de l'avoir derrière moi comme ça. Et honnêtement, je m'attendais pas à son intervention sur mon crumble.
Quelle est votre adresse secrète, Laurent Delahousse?
Un petit bar à huîtres qui est posé sur le sable au Cap Ferret. Ça s'appelle la cabane d'Hortense.
Ah, mais oui.
C'est une petite cabane.
Alors, il y a
Hortense,
suite, hein.
La brasserie, bien évidemment, qui est à la pointe avec ses frites, avec ses moules, avec, voilà, je salue Bernadette, mais il y a cette petite cabane qui est assez magique. L'hiver, j'aime y aller. J'aime le lundi prendre ce TGV qui m'emmène là-bas et vers midi prendre ces huîtres. C'est le bonheur avec la vue sur le bassin qui s'ouvre, qui se ferme, qui
et
se remplit.
Et le phare du Cap Ferret pas loin.
Qui est juste dans le dos, quand je suis comme ça. Et non, mais c'est un endroit magique et encore peut-être plus l'hiver.
Et le mot de la fin, FIM,
c'est à table.
Merci à Laurent Delahousse pour toutes ces belles réponses franches et sincères. Et vous le retrouverez à partir de la rentrée, à partir du 6 septembre, aux journaux du week-end. Et puis n'oubliez pas ces rendez-vous, hein, 20h30 le samedi et 20h30 le dimanche. Et bien on arrive à la fin de cette émission, les amis.
Déjà.
Et nous avons presque fini le panier d'abricots. C'est la saison des abricots.
J'en suis à 7.
Bientôt la fin de la saison, donc profitez. Non, vous avez plus qu'à 7.
C'était la folie, là.
Merci à toute la bande, hein. Lucille Escourou, Julien Amat à la rédaction, Jean-Luc Arblade à la réalisation, Marie Jacquet à la programmation et merci à vous, hein, chers auditeurs, pour votre fidélité. C'est l'été, prenez le temps de faire le marché, la cuisine et le reste aussi.
Oui. Bel été à vous.
À samedi prochain.
Profitez-en, les amis.
Bon week-end
Mangez,
d'été.
Cuisinez.